John Rambo, un vagabond.
Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de manger ici?
Oui, moi. Ils savent qu'il est innocent.
Ta petite gueule ne me revient pas, du tout.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme jamais t'en as vu.
Ça va être musclé ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question d'Australie, de bière, d'agents secrets, de bière, de Première Guerre mondiale, de bière et même de kangourous. Avec Ted Kotcheff pour la ressortie en version restaurée de son film culte de 1971, Réveil dans la terreur, portrait d'un cinéaste qui aura signé le premier Rambo, dirigé Ingrid Bergman à la télévision, qui a reçu un ours d'or à Berlin pour Dudley Kravitz en 1974. Benoît Lagan.
Retour sur le parcours d'un cinéaste qui aura su, notamment à travers ses films, mettre en scène et filmer les corps des hommes et la musculature presque animale de ces buveurs de bière.
19h30, place nette pour Xavier Delaporte avec sa chronique Place de la Toile. Et puis 19h35, plateau rouge BD avec Xavier d'Horizon qui invente avec Red Skin la nouvelle super-héroïne de la BD franco-belge sous influence comics, Benoît Lagan.
L'occasion de revenir avec ce scénariste phare de la BD contemporaine sur l'ensemble de son œuvre marquée par un certain goût pour l'histoire de la guerre de 14-18 à la guerre froide.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès que l'on ouvre bien sûr sur le son du jour.
Il s'agit de redresser le journal, qui est quand même en difficulté. Il s'agit d'affirmer ses valeurs journalistiques, politiques. Et il s'agit de bâtir avec vous, ensemble, un nouveau projet qui fasse de Libération un journal à la fois fidèle à son histoire, une voix de gauche, quoi, et surtout un journal réinventé pour affronter l'ère numérique. En un mot, il s'agit de faire un nouveau Libération. C'est ce que je souhaite faire, c'est ce que je veux essayer de faire avec vous.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et il date de juin dernier.
Oui, alors là, celui qu'on entendait, c'est Laurent Geoffrin qui revenait à la tête de journal après plusieurs mois d'absence et il présentait son projet de refonte du quotidien Libération. On en avait parlé d'ailleurs en septembre dernier, donc un nouveau journal papier resserré avec une rédaction totalement réorganisée autour du numérique et surtout un plan de départ volontaire de 81 personnes. Et aujourd'hui, Libé annonce que le journal va afficher un trou de 20 milliards d'euros et que Patrick Drahi et Bruno Ledoux, les deux repreneurs du journal, vont devoir apporter 10 millions d'euros supplémentaires au journal. Pourquoi ce trou financier? Eh bien parce que le plan de départ volontaire a largement excédé les attentes de la direction puisqu'il y a 102 salariés qui s'en servent pour partir. Le but affiché reste toujours de rétablir les comptes du journal pour 2015.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Alors hier, une conférence exceptionnelle se tenait au siège de l'UNESCO à Paris autour du patrimoine culturel de l'Irak et de la Syrie. Un patrimoine extrêmement menacé d'une part par les combats, mais aussi par le groupe terroriste Daesh qui a déjà détruit plusieurs sites symboliques.
Oui, et d'ailleurs, l'une des mesures phares annoncées par la patronne de l'UNESCO, Irina Bokova, hier, c'était la demande de mettre en place des zones culturelles protégées pour sauver le patrimoine de la Syrie, à commencer par la mosquée des Omeyyades dans la ville d'Alep, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alep, c'est la grande ville du Nord ravagée pour les combats. Alors cette question de la destruction de lieux hautement symboliques et qui est perpétrée par les terroristes de Daesh, notamment pour briser les identités très diverses de ces pays millénaires, a été longuement évoquée. Mais l'autre grande question abordée par cette conférence, c'était la question du pillage du patrimoine culturel. Véritable urgence pour Mamoun Abdul Karim, directeur général des Antiquités de Syrie.
Il y a vraiment une destruction des sites archéologiques en Syrie et nous avons de notre part, nous avons préservé les collections des musées jusqu'à maintenant. Nous avons 2500 fonctionnaires partout en Syrie qui travaillent toujours dans les régions difficiles. Certains sites clés comme Mari, Douaropos, Apame, autant de sites qui sont violés, détruits par des actes violents et sauvages. Mais autant de sites aussi nous avons sauvés parce que la population locale nous a aidés et on a séparé la politique du patrimoine parce que le patrimoine c'est l'identité, c'est la mémoire de tous les Syriens sans exception. Il faut fermer la frontière. Le gouvernement turc avec la douane et l'Interpol turc doivent travailler et fermer la frontière de l'autre côté. Il faut bouger, comme on dit, la communauté internationale dans les marchés noirs en Europe et aux États-Unis, partout. Il faut décourager ces mafieux de ne pas bouger facilement contre notre patrimoine.
Mais la situation est extrêmement compliquée à évaluer.
Oui, et on en a entendu beaucoup que les pilleurs, mais aussi le groupe terroriste Daesh, évidemment, se servaient de la revente d'œuvres d'art pillées sur le marché noir pour en tirer de l'argent. Mais pour le moment, on n'en a aucune preuve. Et par ailleurs, il est extrêmement difficile de savoir quelles œuvres pourraient potentiellement avoir été volées, ce qui rend du coup le travail de toutes les autorités extrêmement complexe, comme l'explique Fabrizio Pannone. Il est officier de renseignement criminel, unité œuvres d'art chez Interpol.
Bien évidemment, pour parler de ça de manière effective, il faut avoir des preuves. Et à ce moment-là, au moins à notre niveau, on n'a pas la possibilité de présenter des évidences sur la base des saisies. La chose la plus importante que nous pouvons apporter sont les moyens. Par exemple, pour la lutte contre les trafics de biens culturels, nous avons une base de données qui est la seule base de données au niveau international à disposition de tous les services de police ainsi que les douaniers, même pour tous les collectionneurs ou les particuliers. Mais là aussi, c'est une question d'avoir l'information. Pour la Syrie, pour le moment, on ne peut pas aller vérifier directement dans le pays, donc toujours le même problème. Sans information, sans renseignement, c'est difficile de travailler.
À ce niveau-là, la vigilance doit donc venir avant tout des acheteurs.
Oui, alors l'une des invitées extrêmement prestigieuses de cette conférence, c'était la directrice du musée Le Métropolitain de New York. Et puis il y avait aussi beaucoup d'antiquaires, et notamment Dominique Chevalier, antiquaire donc, et président du syndicat national des antiquaires français, qui explique que la profession se montre extrêmement volontariste sur ce sujet.
En tant qu'organisation syndicale, nous avons déjà fait des flash news dans lesquels nous avons attiré l'attention de tous nos membres de faire spécialement attention à tous ces biens qui pourraient être proposés. Maintenant, le circuit, vous savez, quand les gens veulent voler, quand les gens veulent piller, il y a toujours des circuits, mais en général, ce n'est pas maintenant qu'on va les voir. Ils vont apparaître peut-être dans 10 ans quand ils auront fait plusieurs chemins détournés et que là, il y a des gens qui pourront avoir été leurrés de bonne foi. Et là où on a besoin de tous les organismes, c'est de pouvoir avoir la documentation de tous ces objets qui auraient disparu pour que s'ils réapparaissent dans 8-10 ans, on puisse avoir une documentation. Par contre, pour les objets de fouilles illicites, c'est un grave problème parce qu'a priori, c'est pas répertorié et que là, on a beaucoup plus de difficultés.
Voilà, et donc pour essayer de régler ce sujet, la conférence a émis une proposition. La proposition d'interdire provisoirement tout commerce de toute antiquité provenant justement de la Syrie pour un certain moment. Nous suivrons évidemment cette affaire dans le journal de la culture.
Et l'on passe tout de suite aux brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec le Centre National du Cinéma, le CNC, qui a décidé de conditionner son aide aux films français au montant des rémunérations des acteurs, réalisateurs et scénaristes afin d'encadrer les cachets des stars françaises. Une résolution qui a été adoptée vendredi dernier par le Conseil d'administration du CNC, mais qu'on apprend qu'aujourd'hui par le journal Les Échos. Concrètement, si la rémunération fixe d'une vedette dépasse d'un certain pourcentage le coût de production du film, eh bien le producteur ne pourra pas disposer des aides du CNC. Ce seuil variera en fonction des budgets. On en reparlera dans le journal de la culture.
Le chanteur sud-coréen Psy atteint le plafond de YouTube.
Et oui, avec sa vidéo Gangnam Style, il vient de battre un record mondial. Son premier tube qui a été posté en 2012 vient d'atteindre en fait les limites de vues prévues par le site d'hébergement de vidéos YouTube. Il dépasse donc les 2,15 milliards de consultations. Les ingénieurs de YouTube ont cependant anticipé le problème. Ils ont revalorisé l'entier, comme on dit, à 64 octets. Toutes les vidéos de YouTube pourront donc désormais atteindre 9 sextillions de consultations, un chiffre assez difficile à atteindre raisonnablement.
Der Spiegel, le plus grand journal allemand, se sépare de son rédacteur en chef.
Oui, l'influent magazine allemand d'information Der Spiegel avait annoncé hier le départ de son rédacteur en chef. Il avait été engagé il y a 15 mois pour fusionner totalement le papier et le numérique à Der Spiegel, une opération extrêmement contestée par la rédaction, puisque le journal, confronté lui aussi à une crise de la presse, n'a pas aimé cette opération de fusion. La rédaction a voté à 85% pour le départ du rédacteur chef et le site et le journal redeviennent à partir d'aujourd'hui des entités absolument distincte.
Merci Zoé, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture et tout de suite eh bien, on retrouve nos invités, Ted Kotcheff et Xavier Dorizon.
Le rendez-vous.
Excuse me, please.
Hey, fella, come and have a beer with us. Come on, come and have a beer.
plateau réveille avec vous Ted Kotcheff, cinéaste canadien, découvert à la télévision dans les années 60, figure du cinéma indépendant des années 70. Vous êtes le réalisateur de Rambo, sans oublier votre casquette de producteur de la série New York Unité Spéciale. Vous êtes de passage à Paris à l'occasion de la ressortie en salle de la version restaurée de l'un de vos tout premiers films, Réveil dans la terreur, qui avait été présenté au Festival de Cannes en 71. On en entendait juste une évocation en ouverture du plateau. Le film, en quelques mots, ça raconte les vacances d'enfer d'un instituteur muté au fin fond de l'Australie. C'est Noël, il quitte son bled pour Sydney et sur le chemin, eh bien, il s'arrête dans une ville étrange, minière. Une escale qui ne devrait durer qu'une journée, mais qui après une soirée d'alcool, de bière et de jeux de hasard, va virer littéralement au cauchemar. Ted Kotcheff, vous êtes canadien, vous aviez déjà réalisé à l'époque 3 films pour le cinéma. Qu'est-ce qui vous pousse à vous installer en Australie pour tourner ce film ?
Je suis rendu en Australie parce que je voulais m'intéresser au sujet suivant. Un homme qui a des difficultés dans la société dans laquelle il est plongé. Rambo, par exemple. Rambo ne s'inscrit pas dans la société américaine. Il ne sait pas qui il est, où il est. Voilà. Ce personnage-là, c'est la même chose. C'est un prof, il se croit différent des autres et il méprise pas mal les gens autour de lui, mais il découvre qu'il est semblable aux gens qui l'entourent. Et du reste, nous sommes tous dans la même galère existentielle. C'est ce thème qui m'a toujours intéressé en tant que réalisateur. C'est pourquoi je me suis rendu en Australie sur ce film.
Ce film est l'adaptation du roman de Kenneth Cook, un romancier par ailleurs journaliste, fondateur d'un parti politique, éleveur de papillons. Il est décédé en 1987. Vous l'avez rencontré ?
Oui,
Kenneth Cook, je l'ai rencontré. Et du reste, j'ai réalisé ce film parce qu'un ami devait écrire le scénario. Et il a dit, Ted, je suis en train de travailler sur un roman incroyable de Kenneth Cook. Ça va te plaire, c'est un film pour toi, ça. Et j'ai lu le scénario et je dois dire que j'étais emballé d'emblée. Et Kenneth Cook était tout comme le personnage de cet enseignant. Il était journaliste dans ce bled dans lequel nous avons fait le tournage. Et lui, il a connu toutes ces expériences. Il se sentait rejeté, marginal, différent. Parce que dans cette société, j'ai appris pas mal de choses. Moi, j'ai grandi au Canada, vous l'avez dit, et l'outback en Australie ressemble beaucoup au territoire du nord du Canada, cette espèce de paysage immense qui ne vous apporte aucune liberté, mais au contraire un sentiment de claustrophobie, d'emprisonnement. Cette société était hyper masculine, donc des hommes qui boivent, qui se battent, pratiquement pas de femmes à l'horizon. Donc je me suis rendu dans ce bled. Et si on veut connaître la vie d'une ville, il faut aller voir le rédacteur en chef de la feuille de chou locale et il faut aller l'inviter à dîner. C'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai dit à ce bonhomme, et les femmes, elles sont où les bonnes femmes ? Et il m'a dit, ben, elles sont chez elles, évidemment. Et les femmes n'ont pas le droit d'aller au bar. Et évidemment, le taux de suicide dans ce bled était très élevé, parmi les femmes en particulier. Et moi, j'ai dit, et les bordels, ils sont où ? Mais il m'a dit, il n'y a pas de bordel ici. Attendez, elles sont toutes homosexuelles ? Tout le monde est homosexuel ? Non. Ah, non, les homosexuels, on les descend à coups de flingue ici. Donc,
comme les kangourous, quoi.
Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites ? La sexualité, c'est quoi ici ? Ah, ils se battent entre eux, voilà.
Alors, vous donnez une image extrêmement violente de l'Australie, notamment de ce bled, notamment à travers une chasse aux kangourous assez sadique. Vous vous en expliquez même, d'ailleurs, dans le générique de fin. Vous expliquez les conditions dans lesquelles vous avez tourné cette scène. Comment les Australiens, d'abord, ont compris ce film ? Comment l'ont-ils reçu ?
Le
film a été projeté pour la première fois à Sydney en 71. Bien entendu, les critiques étaient fort bonnes. Je dis ça parce qu'on le sait. Mais personne n'est allé voir le film. Pas de spectateurs. Et l'un des comédiens m'a dit qu'il avait vu le film dans une salle avec le public. Et au milieu de la projection, il y a un homme qui s'est levé et qui a dit « Ça, c'est pas nous, ça !» en montrant du doigt l'écran. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Mais si, c'est nous, assieds-toi, espèce de crétin !»
Bon, bref, la réaction n'était pas très très bonne s'agissant de la peinture que j'ai faite des hommes australiens. Revenons à la chasse au kangourou, si vous le voulez bien.
Oui, la chasse au kangourou.
Moi, je ne mange pas de viande. L'idée de tuer un animal, ça me dépasse. Ça, c'est la chasse, qui est dégoûtante, la chasse.
Tuer un animal très beau et très vivant, c'est dégoûtant, incroyable. Anyway, so here I have this sequence.
Bref, il y a cette scène, et je ne sais pas quoi faire. Comment tourner ça, cette scène de chasse? C'était bien avant les images de synthèse. Évidemment, on peut faire semblant de faire ça avec un ordinateur. Bref, il y a quelqu'un de l'équipe qui m'a dit un jour, Ted, tous les soirs, il tue des centaines de kangourous dans l'outback australien. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi ? Il m'a dit, il les tue, ces kangourous, pour nourrir les chiens et les chats aux États-Unis. Autrement dit, les chiens et chats américains mangent de la viande de kangourou ? Il m'a dit oui, mais j'ai dit c'est dégoûtant, encore une fois. Il m'a dit, Ted, personne dans les villes ne sait ce qui se passe dans l'outback australien. Il m'a dit, essaye de convaincre ces chasseurs de kangourous de te laisser venir avec ta caméra à l'arrière du camion. Et voilà, comme ça, on pourra faire semblant de faire une sorte de documentaire sur la chasse aux kangourous. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai eu ces images. La plupart des images, d'ailleurs, étaient assez dégoûtantes et étaient complètement inexploitables. Il a fallu que je filtre les choses que j'ai du corps un peu lors du montage.
Vous dites, Ted Kotcheff, que ce film ressemble à ce que vous aviez en tête. Pourtant, il a été assez difficile, d'après ce que j'ai compris, à réaliser. Vous étiez souvent en conflit avec le producteur, notamment sur le plan esthétique. Sur quel point vous vous opposiez ?
Généralement, les gens sont réticents de pousser les choses jusqu'au bout. Ils ont tendance à vouloir édulcorer et rendre les choses plus digestes pour le spectateur.
En fait,
j'ai eu pas mal de chance parce que c'était pas un type qui voulait avoir raison à tout prix. Et malheureusement, il faut que je vous annonce que moi, je suis un réalisateur quand même assez dur, un type assez invivable. Et quand on me donne des conseils, quand on fait des propositions, voilà comment je réponds. Je dis, vous n'allez pas m'apprendre à faire des films.
Vous avez débuté à la télévision canadienne CBC à l'âge de 24 ans, c'était dans les années 50. Quel est le cinéma qui a pu vous donner envie de passer au cinéma, Ted Kotcheff ?
C'est vrai que j'ai commencé à la télé, à la CBC. J'avais 24 ans et là, on était en 1955, pour être précis. Et puis, j'ai voulu être réalisateur après 2 ans de cette expérience à la télé. Mais j'ai beaucoup appris à la télé parce que toutes les 3 semaines, je faisais un programme d'une heure avec 4 caméras. Je faisais une comédie dramatique, puis une comédie, puis un thriller, un polar. Donc j'ai pu me lancer dans tous les genres et découvrir là où j'étais le moins mauvais. Mais je voulais être réalisateur, donc, et il n'y avait pas de cinéma au Canada, donc je suis allé en Angleterre. D'ailleurs, je suis très attaché à la France, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'époque, j'étais dans cette époque du romantisme à Hemingway. Je voulais être comme Hemingway. Tout le monde au Canada et aux États-Unis, surtout les écrivains, les réalisateurs, se disaient, il faut aller en Europe. C'était pas possible d'évoluer aux États-Unis ou au Canada. Donc on était dans les traces de Hemingway, en quelque sorte. J'ai vécu dans le sud de la France pendant un moment.
Tourette-sur-Loup, près de Nice.
Dans les Alpes-Maritimes. Et là, j'ai rencontré un écrivain qui est devenu mon meilleur ami. Nous avons partagé un appartement à Londres pendant de nombreuses années. Et il y a un de mes films qui est basé sur le roman de cet ami. Alors, c'est non seulement le meilleur roman canadien, mais moi, je me suis dit qu'il fallait absolument le réaliser. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis lancé dans le cinéma. Mais pour décrire mes films, on pourrait dire
people who don't know themselves.
On pourrait dire qu'il s'agit de gens qui ne se connaissent pas, des gens qui ont des problèmes identitaires. Dans Réveil dans la terreur, l'enseignant ne sait pas de quoi il est capable, mais il est évidemment plongé dans des conditions de vie exceptionnelles. Il subit un stress existentiel terrible. Ainsi, il se révèle un côté obscur dont il ignorait l'existence. Et Kravitz est comme ça, cet ami, ne savait pas du tout ce qui le poussait. Et je crois que c'est lié à ma nature profonde. Moi-même, je ne me connais que très peu. Et tout mon travail, c'est une découverte de ma propre identité.
Un autre nom qui a été particulièrement fondateur dans votre façon même de travailler le cinéma, c'est Michelangelo Antonioni, que vous rencontrez assez jeune aussi. Pourquoi ce cinéaste précisément? Qu'est-ce qu'il a pu représenter pour vous?
Mes quatre premiers films ont été tournés en Angleterre, à Londres. Je vivais à Londres et mon deuxième film était Life at the Top avec Gene Simmons et Laurence Harvey. Et Antonioni, lui, réalisait un film à Londres.
Blow Up.
Vous savez, Blow Up.
Ça arrête grave.
Ah, je vais vous raconter un truc intéressant sur Blow Up. Le téléphone sonne. L'homme se présente comme Michelangelo Antonioni, mon idole. Mon idole, j'adore son cinéma. Il me dit, Monsieur Kotcheff, j'avais 29 ans quand j'ai fait le film. Il me dit, vous savez que j'ai réalisé ce film Blow Up à Londres. Et évidemment que je sais tout le monde à Londres, c'est ça, monsieur, lui dis-je. Et il me dit, eh bien, je vous appelle parce que moi, je viens de voir votre film Life at the Top et ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré. Alors, Carlo Ponte, le producteur de Blow Up, et moi-même, nous pensons que notre film est trop long. Il y a 15 ou 20 minutes de trop et on n'arrive pas à couper des choses au montage. Moi, je ne sais pas quoi couper. Lui, il ne sait pas non plus. Et on n'arrête pas d'avoir des discussions là-dessus. Et il me dit, Antonioni, est-ce que vous voudriez bien,
vous êtes jeune,
et je veux quelqu'un de jeune, un réalisateur jeune, est-ce que vous voudriez bien regarder ce film à mes côtés et faire des propositions pour couper des trucs au montage? Imaginez.
Ouais,
je bégaye et je dis, mais oui, bien sûr. Donc je regarde le film et j'ai viré 20 minutes de choses. Et bien, sur ces 20 minutes que j'ai proposées, il en a viré 15 dans Blow Up. Évidemment, j'ai été extraordinairement enthousiaste. Imaginez, mon idole qui me demande des conseils. Et il me dit, j'aimerais vous inviter à dîner pour vous remercier de vos propositions de montage. Donc, nous avons dîné ensemble. Et moi, j'étais tout jeune, jeune réalisateur. J'étais encore à la découverte de la façon dont je voulais travailler. Et je lui ai dit, Monsieur Antonioni, expliquez-moi quelque chose. Je l'appelais Michelangelo par son prénom à ce moment-là. Pourquoi y a-t-il 8 scénaristes au générique? Et il me dit, vous voyez Ted, en Italie, nous ne pensons pas que le dialogue soit particulièrement important. Le dialogue, c'est simplement du son. Un film, c'est un art pictoriel. Donc, moi, en tant que scénariste, nous écrivons le film comme s'il s'agissait d'un film muet. Et j'ai dit, quoi, pourquoi vous faites un synopsis de 20, 30 pages, une espèce de note d'intention? Il dit, non, on fait tout le script comme si c'était un film muet. Par conséquent, c'est pas nécessaire d'écouter le dialogue. On peut comprendre rien qu'en voyant les images, parce que le récit vous vient par une série d'images liées les unes aux autres. Et moi, j'ai dit, et après, qu'est-ce que vous faites? Il dit, une fois qu'on a fait ça, et qu'on a créé ce film muet, à ce moment-là, je fais venir le producteur et je lui dis, qui c'est qui va nous écrire les scènes entre le mari et la femme? Oh bah Laurent, tiens voilà, Laurent, tiens. Ouais. Donc le fameux Laurent, il arrive, clac, bon, avec un stylo, et il fait ça. Ensuite, qui c'est qui va nous faire les scènes? Ah bah Xavier, tiens voilà. Et c'est comme ça qu'on a 8 scénaristes. Mais ce que je suis en train de vous dire, le message c'est celui-ci. Vous voyez la scène où la porte est claquée à la suite d'une dispute entre le mari et la femme, ce qui compte, c'est qu'on a créé un obstacle entre le mari et la femme. Évidemment, si la porte est claquée, il faut entendre la porte. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'aspect visuel de cet obstacle que nous avons créé entre les deux personnages. Donc, que vous dire, Laurent ? Ça a eu un effet extraordinaire sur moi. J'étais jeune réalisateur. Mais bien sûr, j'ai dit, c'est l'évidence. Tous mes scénarios, tous mes films, maintenant, vont être conçus comme ça, avec cette dimension de l'image. Il faut qu'on comprenne le récit rien qu'en regardant les images. Peu importe le dialogue. Le dialogue, c'est pour le théâtre, c'est pas pour le cinéma. C'est pourquoi cette rencontre avec Antonioni était particulièrement fondamentale sur moi et ma carrière. Et puis, il s'est passé ultérieurement quelque chose de très intéressant dans ma carrière. Il n'y a que deux films qui avaient été projetés deux fois au Festival de Cannes.
Réveil dans la Terreur.
Le Réveil dans la Terreur. Et L'Aventura d'Antonioni, voilà. Quelle fierté.
Benoît.
Xavier Dorizon, vous êtes fan du cinéma de Ted Kotcheff. Quel est le film qui a le plus compté pour vous dans le cinéma de Ted Kotcheff ?
Je suis vraiment désolé, j'aurais aimé être original, sortir quelque chose qui soit un peu inattendu, mais ça ne va pas l'être. Et c'est évidemment le premier Rambo.
C'est le premier Rambo ?
Ah oui.
Ils sont le seul, hein, parce qu'il n'a pas tourné la suite.
Oui, oui, je sais bien, mais bon, il y en a eu plusieurs. Mais c'est de tous ces films, celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est... il y aurait mille raisons, mais parce que c'est... En fait, c'est un film qui réunit deux qualités absolument incroyables, qui sont que, d'un côté, c'est parfaitement divertissant, parfaitement écrit, parfaitement rythmé, et en même temps, c'est profond. C'est vrai. Et c'est pour moi un des films les plus iconiques de cette époque où on arrivait à la fois à donner du plaisir aux gens, un plaisir très simple de cinéma, et en même temps à ne pas les prendre pour des idiots et à leur raconter des choses très vraies sur eux-mêmes et sur leur civilisation.
Est-ce qu'il est vrai, Ted Kotcheff, qu'au départ, c'était Dustin Hoffman qui devait interpréter John Rambo ? Quand on voit Stallone aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'au départ, c'était Hoffman.
Non, it's not true.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, ça a toujours été.
Stallone a toujours été mon premier choix.
Et comment vous regardez justement la carrière de Stallone, qui était plutôt un bon acteur au départ, en fait ?
Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque j'ai fait appel à lui, sa carrière était un petit peu dans le creux de la vague. Parce qu'à Hollywood, on disait que Stallone ne faisait que Rocky et qu'il ne faisait rien d'autre. Il a fait quatre autres films. Fist,
Nighthawks,
Paradise Alley, qu'il a écrit lui-même, et c'était tous des flops, tous des bides. Donc, même après avoir terminé le tournage avec lui, la Paramount n'a même pas voulu regarder le film. Pourquoi ? Parce que Sylvester ne fait que des Rocky, il ne fait rien d'autre. Et moi, j'ai dit, vous, les gars de Paramount, là, vous avez tort. Mais c'est ce qu'on disait à Hollywood, tout le monde disait ça. Et par ailleurs, il y a une autre chose qu'il faut savoir sur Sylvester. C'est un très bon scénariste. Rocky, c'est quand même quelque chose. Lorsque je l'ai recruté, il m'a dit, Ted, je voudrais travailler sur le scénario avec toi. Moi, j'avais travaillé dessus pendant 6 mois et j'ai dit, oui, bien sûr, pourquoi pas. Et il m'a fait des propositions formidables pour le film. Et il m'a même fait une proposition un jour pendant le tournage. Le film, nous l'avons toujours envisagé comme étant une mission suicide. Donc, il n'a pas sa place dans la société américaine. Il est rejeté par tous. Tous les anciens du Vietnam sont revenus aux États-Unis. Et pour la première fois, vous le savez, on ne leur a pas reconnu les honneurs qu'ils méritaient. Ça, c'est Welcome Home, c'est pour les soldats de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, les fanfares, la musique et tout. On faisait ça dans les guerres précédentes. Et ainsi, on a pu réintégrer ces anciens combattants dans la vie normale. Mais, pour une raison que j'ignore encore, lorsque les anciens combattants du Vietnam étaient revenus, l'aile droite pensait que ces anciens combattants étaient des losers et l'aile gauche pensait qu'ils avaient tué des gosses et tout au Vietnam et tout, donc tout le monde les détestait. Mais Tous les mois, il y a 1000 anciens combattants qui essayaient de se suicider. Il y en a un tiers qui réussissait. Autrement dit, tous les mois, il y avait 300 à 400 anciens combattants du Vietnam qui se suicidaient. Il y en a un qui m'a dit, moi, mon âme est souillée. Les Américains ne me permettent pas de purifier l'âme en raison de ce qui a été fait au Vietnam. Vous voyez, c'était terrible cette expérience. Donc, revenons à Rambo. Rambo arrive dans ce patelin qui est un microcosme représentatif de la société américaine. Et tout ce qu'il voulait, c'était quoi? Un hamburger. Et voilà, et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà un homme qui avait sacrifié sa vie. Il ne voulait pas y aller. C'est les États-Unis qui ont envoyé ces soldats au Vietnam comme chair à canon. Et maintenant, ils ne veulent pas les accueillir quand ils sont de retour. Et le shérif dit, non, tu n'auras pas d'hamburger, barre-toi. Donc, il traverse le pont dans la voiture, au sommet de la scène, et il est là. Et il dit, bon, ça y est, voilà, c'est la goutte qui fait déborder le vase, je vais revenir. Donc on a toujours considéré que c'était une mission suicide, pour revenir à ce que je disais. Donc on a fait le tournage, et la toute dernière scène, le colonel arrive pour mettre fin à sa souffrance, et Rambo lui dit, je sais que tu as un pistolet sous ta veste. C'est toi qui m'as conçu, c'est toi qui m'as créé, et bien c'est toi qui vas me tuer maintenant. Donc le colonel sort son flingue, mais évidemment il n'a pas le courage de descendre son soldat. Et Rambo, donc c'est Harakiri quoi en fait. Donc on a tourné la scène, il meurt et c'est la fin du film. Et Sylvester dit, Ted, je peux te parler un instant? Et moi, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, pauvre type, ce pauvre Rambo, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Il y a eu les chiens, il a été blessé, il a fallu que je saute dans des précipices et tout. Et puis maintenant, on va le tuer? On pourrait peut-être envisager une fin où on ne le tue pas. Et il me dit, de toute façon, on n'a pas de distributeur. Et si on a un distributeur, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben, vous ne pouvez pas tuer Rambo à la fin du film, les gars, hein, c'est pas possible. Donc il nous faut une autre fin. Et moi, j'ai dit, bon, d'accord. Lorsqu'on fait un film à Hollywood, comme vous le savez, on fait des tests. Donc, on fait des tests Colorado, dans l'Arizona, New Jersey, en banlieue, là où vont les cinéphiles de tous les jours, pas les professionnels. Et en l'occurrence, on est allé dans une banlieue de Las Vegas pour faire les premiers tests auprès du public. Et je savais que le film allait marcher parce que le public adorait le film. 400-500 personnes, et on leur donne des cartes. Il faut remplir des cartes, des questions. Et les gens criaient. Attention Rambo, un peu comme au guignol. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Le public qui crie comme s'il pouvait intervenir et faire quelque chose pour l'action qui se passe à l'écran. Bref, quoi qu'il en soit, on arrive au moment de la fin.
Complètement silence. Pause un mot. And then one man said,
et il y a un bonhomme qui dit, si le réalisateur est dans le public, on va le pendre haut et court. Et donc, mon épouse était là, et je lui dis, on se casse. Donc, on est sorti, et les producteurs ont ramassé les cartes, et toutes les cartes disaient, c'est le meilleur film d'action qu'on ait jamais vu. Mais la fin, non.
One after the other, all the same cards.
Donc tout le public disait la même chose. Il était unanime sur la fin. Donc les producteurs ont regardé les cartes. Et ils ont dit, bon, les garçons. Moi, j'ai dit, regardez, j'ai une autre fin, si vous voulez. Elle est prête. Tout ça à la suite de la proposition de Sylvester. Il savait ce qui plaisait au public. Il savait ce qui déplairait au public. Il savait ça.
Benoît. Alors, Ted Kotcheff, nous demandons chaque soir à nos invités de nous soumettre une idée de son, et voilà ce que vous avez choisi. Thank you. identification de ce son, Ted Kotcheff?
This is a piano sonata by Franz Schubert.
Sonate pour piano de Schubert. Évidemment, ça a eu un effet très important sur mes films. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à apprendre le violon. Mes parents voulaient que je sois violoniste classique. Et à l'âge de 8 ans, j'étais précoce et j'ai gagné une médaille d'or. Autrement dit, la musique a joué un rôle très important dans ma vie. Et lorsque je réalise mes films, j'utilise une structure musicale. La structure musicale, c'est parfait. Vous avez l'allegro, puis l'andante ou largo, ce ralenti, puis scherzo rapide, et puis allegro con fuoco, l'énergie avec l'apothéose. Donc la structure musicale, c'est celle que j'adopte pour la structure de mes films. Et j'adore Schubert.
Benoît, dernière question.
Oui, peut-être que chef. Oui, parce qu'on n'a pas évoqué vos dernières productions. Et à la télévision, vous êtes producteur exécutif sur la série Law and Order. Vous l'avez fait pendant 12 ans. C'est une franchise importante de la télévision américaine créée par Dick Wolf. S'il y a une trace Kotcheff dans cette série, ce serait laquelle?
Well, I was there was a Law and Order, original Law and Order, and then
l'original de Law and Order. Puis Dick Wolf, qui est le producteur, m'a dit, Ted, je veux lancer une nouvelle série. Il s'agira de crimes sexuels. Et j'ai dit, oula, c'est intéressant ça. Personne ne s'était lancé là-dedans auparavant. Le viol, tous les trucs formidables avec des enfants et tout. Génial. Et je me suis dit au début, comment est-ce qu'on va faire une série? Ça ne va pas être le viol de la semaine ou alors la pédophilie du mardi soir, enfin bon, je ne sais pas. Donc c'était un grand défi quand même. Hein. Il m'a dit, bon, je vais t'embaucher pour 3 mois et puis on va 10 ans plus tard.
Vous y êtes encore.
Nous voilà encore là. Évidemment, ça a été un succès immense aux États-Unis. Et ça a été fait partout dans le monde, en Russie, partout. Donc, producteur exécutif, et j'étais réalisateur de pas mal d'épisodes. Hein. Et ça marche encore, cette affaire-là. On en est quoi, à la 15e, 16e année?
C'est extraordinaire.
Et est-ce qu'il y a une signature Kotcheff dans cette série, justement? Qu'est-ce que cette série vous doit à vous?
Oh, that's not. Well, first of all, it was called Sex Crimes, the show. Sex Crimes.
Ça and devait s'appeler Sex Crimes, crimes sexuels.
NBC said, oh, that's.
Et NBC
awful.
A dit, non, non, ça c'est pas bon comme titre. Non, c'est provocateur. Et puis on est arrivé à Law and Order, victime spéciale. Parce que la police de New York spécialisée dans les crimes sexuels s'appelle Special Victims, victime spéciale. Bon.
Et
comme dans l'ensemble de mon œuvre, j'aime bien me documenter. Et j'ai voulu traiter le sujet en profondeur. Et j'avais pas mal de scénaristes femmes, étant donné que les crimes sexuels sont l'apanage des hommes contre les femmes, et les femmes qui sont les mères des enfants victimes, et j'ai fait venir des scénaristes femmes. Et puis j'ai également embauché le plus possible de réalisatrices quand j'étais producteur exécutif. C'est ça, voilà, ma contribution, c'est ça, c'est le rôle des femmes.
Le rendez-vous, la chronique.
Tout de suite après les kangourous et après la série
Law and Order
et Rambo, et bien la chronique de Xavier Delaporte, tout ça est d'une cohérence totale. Ce
oui,
soir, donc Xavier,
vous
j'imagine bien, ce soir Xavier au programme de cette chronique en partenariat avec Rue 89 dont vous êtes le rédacteur en chef, qu'est-ce qu'on a?
On va parler d'algorithmes, parce que quand dans quelques siècles, on se demandera en quoi ont cru les hommes et les femmes des années 2010, la réponse sera simple, ils croient aux algorithmes. De la même manière qu'on a cru un temps au destin, au dieu, au pluriel, et puis un seul dieu, on a cru dans la République ou dans le progrès, et ben on croit aujourd'hui dans les algorithmes. C'est-à-dire qu'on croit en la puissance combinée du raisonnement et du calcul, des mathématiques et de l'informatique pour résoudre tous nos problèmes, et dans tous les domaines. ce sont des algorithmes qui vont nous permettre de détecter des épidémies avant même que l'OMS ou les administrations compétentes ne s'en rendent compte. Ce sont des algorithmes qui vont assurer notre sécurité en repérant les profils de personnes déviantes à la fois sur Internet mais aussi dans la rue grâce aux caméras de surveillance. Ce sont des algorithmes qui déjà assurent de manière autonome la majeure partie des échanges financiers sur les places boursières. Ce sont des algorithmes qui garantissent le meilleur ciblage de la publicité et donc font tenir tout un pan de l'économie. Dans le monde du travail, ce sont des algorithmes qui vont nous permettre de recruter à coup sûr la bonne personne au bon poste. Puis ce sont les algorithmes qui vont déterminer l'organisation optimale des tâches. Dans la lutte contre le chômage, ce sont des algorithmes qui sélectionnent la bonne offre pour le bon demandeur d'emploi. Sur les sites de rencontres, ce sont les algorithmes qui nous permettent de tomber sur la bonne personne. Ce sont les algorithmes qui vont nous permettre de savoir si nous allons bien ensemble, si notre couple a une chance de durer. Ce sont des algorithmes qui vont
que
me dire...
Que disent les algorithmes de cette chronique, d'après tout?
Oui, c'est une chronique sur les algorithmes, je vous ai dit.
Mais oui, j'ai
compris. Parler d'algorithmes, bon, voilà. Hein, et vous avez complètement coupé ma période.
Non, allez-y.
Bon, qui vont contrôler les paramètres essentiels. Bah oui, enfin là, c'est une retombée,
non.
Une débandade, si j'ose dire. Qui vont contrôler les paramètres essentiels pour ma santé et me prévenir en cas de risque. Ce sont les algorithmes qui vont conduire ma voiture sans que j'aie à y toucher, qui me disent déjà quel film va me plaire, quel livre je vais lire et quelle vidéo porno va me faire fantasmer. Je mélange volontairement ce qui est déjà là et ce qui arrive, car tout relève du même phénomène, la délégation d'une partie toujours plus grande de nos décisions au programme informatique. Quand on y réfléchit, c'est déjà le cas dans plein de petits actes de nos vies. Quand on branche un GPS dans notre voiture pour se guider dans une ville et qu'on suit le trajet indiqué par la machine, on accepte de suivre sa logique, par exemple suivre principalement les grands axes. Quand on fait une recherche sur Google, on accepte que la machine pondère ses résultats en fonction de ce qu'elle pense qui va nous intéresser, car l'algorithme de Google sait beaucoup de choses sur celui qui cherche, d'où il cherche, ce qu'il a cherché avant, etc. Ce qui est compliqué, c'est qu'il serait trop simple de s'en affliger seulement. Dans bien des cas, c'est du temps qui nous est offert en échange, c'est de la disponibilité d'esprit, c'est du confort et donc de la possibilité de réfléchir à autre chose, la possibilité de penser, de créer. Et donc, ce qui pourrait poindre comme un horizon désirable, et certains le postulent, c'est un être humain complètement débarrassé des contingences matérielles, maître des machines qui, tels des esclaves, feraient tout pour lui et lui garantiraient une vie proche de la vie édénique. Et la comparaison est moins absurde qu'il n'y paraît entre le paradis et le monde promis par ces algorithmes. C'est la même douceur tranquille d'une vie dédiée au seul souci de soi. Mais ce qui risque de se passer, ça n'est pas du tout ça. Ce qui risque de se passer, c'est ce qui s'est toujours passé avec les grandes croyances qui ont précédé, c'est qu'elles achoppent sur le réel. Le réel, il est trop varié, trop chaotique, trop imprévisible, trop mystérieux. Vous froncez sourcils, vous ne comprenez pas ou
c'est... Ah si, non, je
c'est
je vous
pas clair ce que je dis.
Ah si, mais c'est très clair. D'accord, justement. Bon. J'étais même étonné de ma propre compréhension.
Ah c'est vrai.
Oui.
Bon, je suis content. Alors, je reprends quand même. Le réel, il est trop varié, trop chaotique.
C'est trop facile.
Si, pour être sûr que vous avez bien compris. Trop prévisible, trop mystérieux, trop imprévisible. Trop mystérieux encore pour ne pas contredire les systèmes descriptifs. Et surtout l'algorithme, même quand il est auto-apprenant, même quand il est collaboratif, écrit par plusieurs mains, plusieurs cerveaux, il est le produit d'un esprit humain ou d'une masse d'esprits humains et donc destiné aux mêmes erreurs, aux mêmes failles et aux mêmes altérations. Et comme l'expliquent les informaticiens les plus pointus, plus nos programmes informatiques sont compliqués, plus les chances de bugs sont importantes et les conséquences graves, finalement. Au paradis des chrétiens comme dans la Silicon Valley, c'est toujours la même histoire, c'est toujours notre faillibilité qui nous perdra.
Merci Xavier Delaporte.
J'en prie, c'est un sermon.
On se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Il sera partagé.
19-20, le rendez-vous.
Plateau rouge avec vous, Xavier d'Horizon, scénariste de bande dessinée depuis la fin des années 90, surtout dans ce qu'on appelle la bande dessinée de genre, le fantastique, l'ésotérisme médiéval, le western avec West, ou le récit de guerre, les sentinelles, ou encore l'aventure et l'espionnage. Vous signez le premier tome de votre nouvelle série Redskin aux éditions Glénat, l'histoire en quelques mots, et elle vaut le coup. Vera est une espionne russe qui est envoyée à Los Angeles pour devenir la nouvelle super-héroïne américaine. Son but, c'est de venir en aide aux Américains les plus libertaires qu'un super justicier puritain, le charpentier, veut complètement éradiquer. Alors l'espionne choisit comme couverture le cinéma porno, et allez, avec pour arme la faucille et le marteau, elle sera donc Redskin, une super héroïne aux valeurs communistes. On le voit bien, vous allez jouer avec les codes traditionnels du comics. Quel a été l'élément déclencheur d'une telle aventure ?
En fait, moi, j'ai commencé à aimer la bande dessinée à travers la bande dessinée américaine, curieusement. Et donc, ça faisait des années que j'avais envie de faire une bande dessinée de super-héros. Et je me suis dit que je ne pouvais quand même pas la faire comme tous ces grands scénaristes ou ces grands auteurs américains. Il fallait que j'y mette un sel un petit peu plus européen, un regard un peu plus décalé. Et m'est venue l'idée de ce personnage de Candide, en fait, qui arrive aux États-Unis et qui donc qui va s'étonner de toute cette société de consommation, cette société consumériste, bien sûr, dans laquelle nous vivons tous, et qui considère, par exemple, que autant la violence est détestable, autant le sexe, après tout, ne pose pas tant de problèmes que ça. Et donc, j'ai eu envie à la fois de raconter une histoire un peu en hommage au film Pulp qu'on pouvait voir dans les années 70, cette sorte de plaisir un peu coupable qu'on pouvait avoir à cette époque, mais voilà, qui a bercé une partie de mon enfance. Et en même temps, d'être dans le genre super-héros, tout en racontant, avec une petite touche d'ironie, mon regard sur notre société.
Benoît. C'est Terry Dodson qui signe le dessin. Il a notamment travaillé sur des comics books comme Wonder Woman ou Avengers. Quelles étaient vos principales influences à tous les deux ? Wonder Woman, par exemple ?
Oui, bien sûr. Wonder Woman pour le physique. Oui, je lui ai envoyé quelques photos de Linda Carter qui avait joué le rôle à la même époque. Oui, ça aussi, ça devait être un de mes autres fantasmes de jeunesse. Donc, je lui ai demandé de reprendre un physique qui ressemble un peu à Linda Carter. Et oui, on a échangé beaucoup autour de toute la culture 70, de la Black Exploitation, des films pulp de cette époque, pour en faire une sorte de, allez, BD à la Tarantino, un petit peu.
Vous installez, Xavier Dorizon, votre super-héroïne dans l'Amérique des années 70, plus précisément en 1977. C'est l'année de la sortie de Star Wars au cinéma. C'est sous Jimmy Carter. Qu'est-ce que le contexte politique de l'époque, tant du côté américain que du côté russe, vous permettait de raconter ?
Ben, deux choses. Bon, déjà, ça me permet de faire quelques clins d'œil, évidemment, puisque on connaît tous l'histoire, donc il suffit de s'en amuser. Et puis, par exemple, là, tout le monde à l'époque pense que Star Wars va être un bide. Donc, c'est amusant, évidemment, de voir que tous les personnages de l'histoire le pensent. Mais, en fait, une des raisons, hors évidemment, des raisons dramatiques évidentes, qui sont qu'à cette époque, la guerre froide donne un contexte d'opposition qui va justifier l'envoi de cette espionne. Mais en dehors de, cette raison purement dramatique, ce qui m'amusait, c'est que, en fait, j'ai parmi mes amis une jeune femme qui est bulgare. Qui a connu, qui a vécu en Bulgarie sous le régime communiste. Et ce qui est toujours intéressant quand je discute avec elle, c'est qu'elle me donne une vision de l'Occident qui n'est pas celle que nous avions. C'est-à-dire que nous, on était convaincus qu'on était du bon côté, que chez nous, tout était génial et qu'en face, c'était l'enfer. Et évidemment, elle ne me dirait pas que la Bulgarie des années 70, c'était le paradis, mais elle me rappelle quand même que les gens n'avaient pas le stress du chômage. Elle me rappelle que la culture était présente dans chaque village. C'est-à-dire qu'il y avait une salle de concert, par exemple, dans chaque village bulgare. Elle me rappelle que les gens n'avaient pas de télé, pas de jeux vidéo, et donc qu'ils parlaient, essentiellement qu'ils couchaient beaucoup ensemble parce que ça les occupait. Et bref, ça m'intéressait de montrer ce regard vu de l'autre côté du mur de fer.
Comme à chaque invité, on vous a demandé un son, et voici ce que vous avez apporté.
It's Christmas Eve in L.A.
California.
Is Daddy coming home with you?
Well, we'll see what Santa and Mommy can do, okay?
A New York cop, John McLean, has come to see his wife.
I missed you.
Instead, he's going to have to save her.
Sit down.
Within this skyscraper high above the city, 12 terrorists have declared war.
They're about to be taught a lesson in the real use of power.
He's an easy guy to like.
Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs.
And a hard man to kill. Bruce Willis, Die Hard.
Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew?
Identification de ce son, Xavier Dorizon. Qu'est-ce qu'on entend ? On vient de le comprendre, hein. Et surtout pourquoi ?
Alors d'abord, c'est la bande-annonce américaine de Die Hard, du premier Die Hard, donc Piège de cristal en français. Alors bien sûr, en France, particulièrement d'ailleurs sur France Culture, on pourrait choisir une émission, un film plus intellectuel. J'aurais pu prendre Casablanca, évidemment que j'adore. J'aurais pu prendre des films de Sidney Lumet. J'aurais pu prendre des films de Kubrick.
Vous avez une curieuse vision de France Culture, mais poursuivez.
Non, mais je vous taquine. Mais en fait, et j'ai choisi volontairement ce film parce que tout simplement, c'est un des films qui m'a donné le plus de plaisir. Et quand vous avez un film comme Die Hard, est non seulement un film intelligent, très bien filmé, très bien rythmé, et qui en...
Vous avez dit la même chose tout à l'heure pour Rambo.
Oui, mais c'est parce que c'est profondément ce que j'aime. Et en plus, qui a une gamme émotionnelle absolument incroyable. Honnêtement, ça a la même gamme émotionnelle que Casablanca. Vous avez de l'humour, vous l'avez entendu, avec toutes les blagues qui ont été mises au cours du récit. Vous avez la peur, vous avez la tristesse, vous avez des moments purement excitants d'action. Bref, vous avez en deux heures la quintessence d'un cinéma intelligent, brillant, bien filmé, effectivement comme le cinéma Ted Kotcheff, qui est le cinéma de John McTiernan en l'occurrence. Et moi, je crois que dans le fond, je serais heureux si une fois dans ma vie, j'arrive à faire 10% de ça.
Benoît. Le cinéma vous intéresse beaucoup. Vous avez d'ailleurs travaillé sur le scénario du film Les Brigades du Tigre. Quelle influence le cinéma a pu avoir sur votre approche de la bande dessinée ?
Du scénario de la bande dessinée.
C'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre mon métier, comme à l'époque où je l'ai fait, il n'y avait pas, comme au Canada ou aux États-Unis, d'école véritablement d'écriture de scénario. J'ai dû faire, vous savez, comme ces jeunes étudiants en médecine qui, il y a quelques siècles, allaient déterrer les cadavres, allaient les disséquer. Alors moi, je déterrais pas les cadavres, j'allais au vidéoclub et à la bibliothèque. Donc en bibliothèque, bien entendu, je disséquais les bandes dessinées alors, de Stan Lee, de John Byrne ou de Jean Van Damme pour ce qui est de la production européenne. Et je regardais aussi un certain nombre de scénarios, dont ceux-là. Et c'est en essayant de les comprendre, de comprendre leur dynamique, de comprendre ce qui les soutenait, que j'ai petit à petit commencé à apprendre mon métier.
Tous mes scénarios, tous mes films, maintenant, vont être conçus comme ça, avec cette dimension de l'image. Il faut qu'on comprenne le récit rien qu'en regardant les images. Peu importe le dialogue, c'est pour le théâtre, c'est pas pour le cinéma.
Merci à nos invités. Ted Kotcheff, votre film Réveil dans la terreur, Wake in Fright, est en salle depuis hier en version restaurée. Xavier Dorizon, les albums Redskin, Les Sentinelles, Le Chant du Cygne sont disponibles chez Glénat, Delcourt et Le Lombard. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
J'interdis à quiconque de semer le trouble dans mon camp.
Désolé. Je veux dire, désolé que vous ayez vu ça.
Demain, Québec en bande dessinée avec Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Et samedi...
L'année 2014, la culture joue un rôle très particulier.
Vu par la culture.
Culture.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ?
Je m'appelle Claude François.
Viens ici !
On peut jamais vraiment être son lecteur et on est...
Qu'as-tu à me dire positif sur la France ?
Maintenant, je dois vivre avec.
Ça a la forme d'un cône sur un piédestal. Et puis, cela a une forme qui rappelle aussi un sextoy.
Samedi, nous serons en public toute la journée à l'auditorium du Musée d'Orsay à Paris pour le forum L'année vue par la culture. Ce sera une série de 5 tables rondes autour du thème la France, le pouvoir, la guerre, la fiction et le sexe avec des invités Aurélien Bélanger, Frédéric Becbédé, Catherine Millet, Cédric Kahn, Romain Goupil, Elisabeth Rodinesco et tant d'autres. Le programme est sur le site de France Culture pour les inscriptions. Des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssatou Ndoye, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture Zoé Sfez, Chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Élise Leu, à la réalisation Thomas Beau et à l'interprétation Xavier Combes.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien ? Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors, bonne soirée à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.